Mesdames et messieurs, les joies de travailler à la maison. On a Pauline, ma fille, qui essaie de sortir du bureau avec un panier. Un panier de pique-nique qui laisse la porte ouverte. Hey, Pauline, ferme la porte. Bienvenue à Cadre Bâti où on redouble d'efforts pour être professionnel. Je vous accueille aujourd'hui pour un épisode un peu spécial qui célèbre notre première année depuis la diffusion d'un épisode. On a commencé ce projet-là sans attente, en se disant qu'on avait envie de rencontrer des gens. On a réfléchi à ce qu'on pourrait faire pour célébrer cette première année. Puis, comme on avait pris quelques verres, qu'on était à Métis, on s'est dit, ben pourquoi ne pas considérer le chemin parcouru en se racontant des histoires de route avec Maude Cournoyer, notre réalisatrice, Émile et moi. Alors, c'est ce qu'on a fait. Vous allez entendre aujourd'hui nos histoires. Une est un peu plus drôle, l'autre est un peu plus inquiétante, l'autre, enfin, est peut-être plus touchante. Enfin, différentes histoires qui vous donneront peut-être envie à votre tour d'en vivre à nouveau des histoires de route. Voilà, bon épisode.
Qu'est-ce qu'on fait là?
Les priorités.
On est au jardin de Métis, dans la résidence des stagiaires.
On est en stage.
C'est à peu près 9h30. Non, il est 10h15.
10h15,
Dieu, ça va vite.
Le temps file.
Dehors, on estime qu'il fait à peu près moins 25. Il fait vraiment froid.
Ressenti moins 30.
Puis ça fait bientôt un an qu'on a des épisodes en ligne de Cadre Bâti.
Ça fait un an qu'on enregistre déjà.
Mais t'as raison.
Le premier épisode, est-ce que c'était en 2021 ou c'est en 2020? C'est-tu à la fin de l'eau?
C'était en 2020, on était en décembre, je pense.
Décembre, on avait enregistré des épisodes.
Avant qu'on le sorte.
On en a fait trois avant de sortir. Ouais. Okay. Avant
on a été lent avant les sortir.
Une fois, je suis confus dans notre propre bio. Là. Je pense que le temps dans les deux dernières années a pris des vitesses différentes. Là,
oui.
Ça devient
certaines accélérations.
Oui, certains ralentissements.
Alors, ça fait un an qu'on fait ça, puis ça vaudrait peut-être la peine de célébrer d'une certaine façon. Hier, on était sur la route pour se rendre ici, puis on s'est raconté des belles histoires de route.
De route, justement.
De route, justement. Tout est lié. On avait peut-être envie de se raconter des histoires de route.
Mais comment t'as amené ça hier? Tu dis. Il y avait une
c'est
twist.
C'est pas sérieux, cette histoire-là.
Non, mais il y avait une twist. Là. T'avais dit quelque chose comme.
On a parcouru de la route ensemble jusqu'ici.
Ouais.
Donc, on va se raconter des histoires de route.
Le lien était nu, mais comme on peut l'accepter aussi. Là. Ouais.
Mais c'est pas mal. C'est pas inintéressant quand t'es sur la route de te raconter des histoires de route. Des choses qui sont vécues, on dirait que c'est quand même un moment de cohésion, en tout cas parmi le petit équipage qui se trouve dans un bolide qui traverse le territoire, surtout quand c'est le soir. Puis
il neige un peu.
Il neige un peu, puis t'es comme... Ouais. Comme je disais hier, j'ai toujours trouvé ça fascinant comment très tard dans la nuit, tu te trouves, c'est ça, dans un territoire qui est hostile, dangereux... Puis si tu sortais dehors, tu pourrais mourir sans manteau en une demi-heure. Puis pourtant, tu es assis dans ton auto. Mm. Tu vis cette situation-là en temps réel, mais
tu vas
toi-même,
des centaines de kilomètres heure. Tu sais? Puis là, t'avances puis tu t'en vas à quelque part.
T'en vas à quelque part, mais t'es confortable à l'intérieur. Ouais, c'est ça qui me fascine à chaque fois.
Mais...
Tu sais, t'as tous les contrôles qui sont là. Tout est accessible, t'es bien, il fait chaud, t'écoutes de la musique.
C'est comme une prothèse moderne à notre capacité de se déplacer, finalement, qui nous donne une distance. Mais on dirait qu'avant de raconter des histoires, j'aurais envie de te poser la question, parce que c'est drôle, parce que... c'est l'est pour vrai, mais... mais tu sais, je veux dire...
C'est drôle depuis un an.
Depuis un an, mais... on a... Mais nous, tu sais, dans le fond, on n'a pas brainstormé... on brainstorme jamais vraiment longtemps, dans le fond. Hein. On est... mais j'allais dire, on a rapidement, on est tombé sur cette idée-là que on pourrait se raconter des histoires de route, de mouvement, ouais. Pourquoi vous pensez que ça, rapidement, ça nous a séduit comme ça? C'est quoi votre rapport à la route, au-delà de l'histoire que vous vouliez peut-être conter? Mais c'est quoi votre rapport à la route? Je sais que tout le monde, comme t'en fais pas mal, là, mais sur des deux roues. Mais tu sais, et Guillaume, t'en as fait justement pour pavaner tes cymbales à 800$. Mais...
ouais, en tournée.
Entre autres, mais...
Histoire de tournée, de... Je sais pas, Maude?
Ben, j'espère... As-tu
une réponse?
Pourquoi
faire une réponse?
Ouais, pourquoi... Pourquoi s'intéresser à la route? Mais en fait, pour moi, la route, souvent, c'est une façon de parcourir le territoire. Tu sais, je parcours le vélo, le Québec
parcours
à vélo.
Le vélo le à vélo. Québec.
De Québec à Montréal, en passant par... Non, mais moi, j'aime bien partir sur la route à vélo. J'ai toujours des histoires un peu drôles. Tu sais, en fait, j'aime cette façon de parcourir le territoire aussi. Là, qui, tu sais, hier, on parlait de la voiture, à quel point c'est incroyable. Qu'on parcourt à cette distance-là, tu sais, on voit peu de choses, tu sais, la 20 entre Montréal puis Québec, tu sais, comme ce qu'on voit, c'est on se rend compte.
Un peu triste quand même.
Mais c'est un peu triste, mais c'est aussi qu'il y a pas de, tu sais, il y a rien qui accroche notre œil, tu sais, on est dans la vitesse, on voit un centre d'achat puis ensuite un autre centre d'achat.
Des non-lieux,
des power centers.
C'est ça, ça se ressemble beaucoup, tu sais, puis on voit pas, tu sais, on traverse un territoire, mais on a l'impression qu'on le capte pas, qu'on sait pas trop ce qu'on traverse au juste, c'est parce que de un, il est peut-être générique, puis de deux, on va tellement vite qu'on peut pas voir les petits détails de ce qu'est le lieu réellement. Mm-hmm. Puis quand on est en vélo, on se rend compte, au-delà du générique, on se rend compte des particularités, puis je trouve ça quand même intéressant de traverser des différents villages ou même juste d'être dans le bois, puis de voir une épinette, puis après ça, une autre épinette.
Quand les non-lieux deviennent des hyper-lieux...
Oui, c'est ça. Mettons.
On va couper ce bout. Commandité par LinkedIn.
J'aime bien en vélo quand tu traverses un pont, par exemple, puis tu sens la fraîcheur de la rivière qui est en dessous. C'est sûr que ça t'est arrivé souvent. En auto, t'as pas ça du tout. C'est une sorte d'abstraction bizarre.
Tu contrôles la température en auto.
Mm-hmm. Contrôle, ouais. Il fait chaud.
Non, en vélo, il vente. T'as l'odeur de la mer qui vient. Mais surtout, on a fait de la 132. Je l'ai fait plusieurs fois à vélo. Puis t'as l'odeur de la mer, t'as le vent, t'as les intempéries. T'es vraiment plus vulnérable. Mais aussi, c'est comme... c'est une épreuve. T'sais, quand il pleut ou il neige, t'es exposé à ça, puis tu le traverses, puis tu le vis, puis tu l'expérimentes, puis c'est quand même le fun aussi, ça t'apporte quelque chose, de juste d'être là, tu vois aussi, on parlait hier du parc La Vérendrye puis du parc des Laurentides, on comparait un peu les deux, puis les paysages, puis dans le parc La Vérendrye, par exemple, j'étais là l'été dernier, puis c'est vrai que quand on le traverse en voiture, on va tellement vite qu'on est comme, oh, il y a une rivière, un coup d'œil, on le regarde, la photo peut-être mentale, ensuite c'est disparu, mais quand t'es en vélo, t'es là, tu le vois plusieurs secondes, puis là tu peux te dire « OK, ben ici j'arrête, je prends ma petite collation, je bois une gorgée d'eau, je profite de la vue, puis après ça je repars. » Tu sais, comme on peut vraiment plus absorber le paysage qu'en voiture, j'ai l'impression, c'est 360, c'est contemplatif, méditatif.
Moi, la voiture, je vois ça davantage comme une sorte de mission où tu as le défi de traverser un paysage puis d'amener des gens. Si tu roules la nuit, par exemple, j'aime bien ça quand tout le monde dort dans l'auto avec ma famille. Puis mon travail à moi, c'est ma mission. Là, je dois être concentré puis je
point
dois les amener.
Point B.
Ben, c'est même pas. C'est plus que point A, point B. C'est juste. C'est traverser. Faire l'espèce de voyage au bout de la nuit. C'est ça ma mission, c'est d'amener ces gens-là de l'autre côté. Puis j'adore conduire aussi. J'ai toujours trouvé ça... ça me détend en réalité parce que, paradoxalement, j'ai l'impression qu'en conduisant, le temps ralentit. Je vois les choses venir assez tranquillement, à moins de juste rouler dans le trafic en ville sur les autoroutes, c'est pas super intéressant, mais si t'es dans la campagne puis t'avances, tu chevauches le territoire, puis t'as cette mission-là d'amener une petite bulle de chaleur d'un endroit à l'autre, ça me stimule, je deviens super. Hier soir, quand on entre Rivière-du-Loup puis Rimouski, j'ai eu un moment comme ça où tu somnolais derrière, puis on écoutait Floating Points avec Farron Sanders. Puis à un moment donné, j'étais juste locké avec la route. Là. C'était. Mm-hmm. Il y avait quelque chose. Là. Je suivais la ligne, puis j'avais l'impression. J'exagérais dans ma tête, même peut-être le danger. Je me disais, il se passait au fond rien. C'était super banal, mais je me disais, OK, il faut que j'amène.
Mais t'as la ces vie d'être bon humain port. Aussi, c'est ouais, ça. Ouais. Tu sais, ouais, ouais. C'est fascinant, la voiture, ouais. Parce que c'est. On pense que c'est sécuritaire, mais en fait, il peut survenir à...
Il n'en prend pas beaucoup pour...
Il n'en prend pas beaucoup, tu sais. Puis il y a aussi des conditions hivernales. Il a neigé un peu, il y avait du vent, peut-être de la glace.
Mais on compare beaucoup... Mais je pense que ce qui devient particulier, c'est que c'est comme si chaque expérience un peu de déplacement ou de route amène, je pense, des éléments similaires, mais comme à des... Mais dans des intensités ou des dimensions qui leur est propre. C'est-à-dire même prendre l'avion. Ouais. Pour moi, prendre l'avion, quand tu décrivais le vélo, ça peut ressembler à ça. T'as pas le contrôle, mais t'es vraiment... Pour moi, il y a comme une bulle qui se crée un peu méditative où tu pars un blockbuster que t'écoutes pas vraiment, tu manges... Mais on dirait que toute ton être devient dans un état d'esprit... puis même ta vision du territoire est tellement éloignée, c'est comme... C'est une texture, tu sais, le territoire devient une espèce de relief.
Puis tu vas au loin, tu vas au loin, puis c'est ma maison.
Puis dans le pays d'accueil que tu arrives, c'est ton premier contact, puis ça devient. C'est comme tu pars d'un lieu que tu connais énormément, qui devient de plus en plus flou dans un relief qui lui est abstrait. Et là, tu arrives dans une abstraction qui, elle, va se clarifier avec l'atterrissage, puis le contact avec la réalité.
Mais c'est quand même extraordinaire quand tu reviens, par exemple, d'Europe, tu passes au-dessus du nord du Québec. Je me rappelle d'une fois où je pense que je revenais d'Allemagne, mais j'étais seul, puis assis dans l'allée. Puis il y avait un voisin à côté de moi qui avait dormi tout le long, puis avait fermé son volet. Puis à un moment donné, vers le matin, dans le retour vers Montréal, ou c'était peut-être vers Toronto, je pense que j'habitais à Toronto à ce moment-là. Parce que je me rappelle d'une fois en particulier où ce voisin-là de Hublot qui avait dormi tout le long, qui était intéressé à rien d'autre que dormir. Je sais pas quoi, parce que c'est tout à fait légitime. Lui va aux toilettes, moi je vais m'asseoir à sa place, j'ouvre le volet qui était fermé, puis je me rends compte qu'il fait assez clair dehors, puis on est au-dessus du nord du Québec. Et dans le hublot, on voyait, je sais pas comment dire, des milliers de lacs. Des milliers de lacs. À cette altitude-là, il y en a beaucoup, là. C'était un tapis de lacs partout avec de l'hiver, de la neige. Je trouvais ça fascinant. Puis je me dis... Puis là, lui, il revient des toilettes. Je ferme le volet. Lui, c'est réinstallé à sa place. Moi,
OK.
Je me dis, c'est quand même extraordinaire d'être dans le ciel comme ça.
Mais même juste...
Je pense dans le vide.
Mais tu sais, voir Anticosti, par exemple, des déserts, tous ces paysages-là qui deviennent... un peu comme la discussion qu'on avait avec Alexander Rayford aujourd'hui, quand on parlait des fois qu'il y a des territoires qui sont d'emblée mythiques parce qu'on se les fait raconter, l'avion donne cette perspective-là, puis après ça, le vélo va en donner une autre, puis la voiture une autre. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression que ça crée des bulles où le territoire se présente à des vitesses différentes et on a des niveaux de contrôle qui sont différents. Mais encore une fois, c'est ça, dans ces expériences qui sont diversifiées, il y a cette idée-là où... ouais, il y a comme une bulle qui se referme autour de nous.
Ça donne accès au territoire. Ça donne des panoramas qui sont inédits. Je me rappelle en avion de survoler la Méditerranée la nuit, seul encore une fois, puis de reconnaître par mon hublot Crète, l'île de Crète. Puis de la regarder, puis de me dire... toute l'histoire qu'il y a eu dans ce lieu-là. C'est depuis l'Antiquité, puis même bien avant l'histoire écrite qu'il y a des gens qui habitent à Crète. Puis je la voyais là, dans mon hublot, était à moi.
Saisissable.
Saisissable, la partie grecque, la partie turque, c'était là. Une petite chose, tout ça, tout perdu dans un océan de noirceur autour. Puis d'avoir été, en fait, très ému en réalité. Bon, j'étais fatigué aussi, ça faisait longtemps que j'étais en avion. On devient vite ému. En tout cas, on s'est raconté hier des histoires de voyage, puis... est-ce que ça vous tente de qu'on se raconte des histoires de voyage qui nous ont marqués? Émile, peux-tu nous raconter une histoire de voyage?
Écoute,
une histoire à nous raconter. Écoute, moi, toi, t'en as fait de la route, parce que...
Oui, mais...
Rimouski, Montréal, tu... C'est-à-dire...
Mais
je sais pas si t'as voyagé tant que ça, mais sur une base régulière dans ta vie, il y avait des longues distances qui existaient.
Oui, ouais, mais tu sais, je pense qu'au Québec, la plupart d'entre nous, on s'habitue vite à faire de la route. Parce que tu sais, je veux dire, tu vas en Europe aussi, puis... Tu vas en Europe,
ben oui.
Flûte, puis tu fais 8 heures, tu traverses comme un pays, puis ce que je veux dire, c'est qu'il y a comme une...
Ouais, mais ils se prennent beaucoup en Europe aussi.
Oui.
C'est pas le territoire est plus dense à l'échelle nationale, mais il y a beaucoup de mouvements aussi. C'est quand même assez impressionnant. Les gens changent
plus facilement, je pense, de pays
pour un long week-end, par exemple.
Mais je pense que dans des il y a des moments de ta vie où tu... tu sais, même toi, mettons, qui as grandi à Laval, finalement, ton rapport à Montréal, on mettrait bout à bout tous les kilomètres que t'as fait, t'en as sûrement fait en sapristi. C'est-à-dire que je veux pas, t'étais comme... T'allais consommer...
Sapristi, ouais. Je sais pas c'est quoi. En sapristi, ça c'est beaucoup ou pas beaucoup.
Des centaines ou des milliers, ça.
Ben, c'est beaucoup, tu sais, j'imagine. Dans le sens qu'on se promène parce qu'on vient consommer... Je pense que notamment au début, quand on commence à être plus mobile, c'est beaucoup pour la culture. Là. Nous, on embarquait dans une tercelle, puis on s'en allait checker des shows à Québec. Puis, mais... mais fait quoi? Fait que pour revenir à ta question, je pense que moi, c'est... Bon, il y en a plusieurs que je peux pas compter nécessairement parce qu'ils ont pas vraiment bien fini.
Ça finit quoi? Au poste de police? Ou...
dans le basket.
Ça pourrait être peut-être dans une édition 2. Okay,
choisis-en une.
J'ai 17-18 ans. Je m'en vais jouer un show à Trois-Rivières. Rimouski, Trois-Rivières, on est quand même dans un espace-temps d'un 4,5, 5 heures de char.
4h30, 5 heures.
5 heures de char.
Ouais.
Puis, bon, à cette époque-là, on a un Ben. Le père d'un des gars du Ben nous a acheté une van. Qui était quand même une van formidable.
Et ça, c'est pas très punk.
Ah, t'aurais dû voir la van.
Ça compensait.
T'aurais dû voir la van. Pour la starter, on avait des pinces de barbecue pour faire le contact dans la batterie.
Ça, c'est punk, ça.
Fallait que quelqu'un tourne la clé, mais en même temps, fallait soit une pince de barbecue ou des pinces de plombier pour faire le plus puis le moins. Puis, mais c'était quand même c'était comme un Econoline, mais version camping.
OK.
Fait que c'était comme il y avait des bancs capitaines en avant, puis en arrière, c'était comme une banquette à trois qui devenait un lit, genre avec un bouton. Mais c'était pas... c'était beaucoup de tapis, mettons, puis des faux rideaux. Pis...
Ouais.
Fait qu'on partait souvent les cinq gars du Ben.
C'est comme une sorte de 4,5, finalement.
C'était exactement... C'est comme un 4,5, genre de Rosemont. On aurait pu le parquer sur Maçon puis louer ça 1002 par mois, présentement. Mais... Fait qu'on part avec ça. Je pense que c'est un de ses premiers tests. Que nous, l'idée, c'était comme... on finissait le cégep à l'époque, on avait 17 ans, puis c'était comme, à un moment donné, cette vanne-là, on va tourner avec, puis on va aller loin. Mais là, le but, c'est juste pas d'aller loin, c'est juste d'aller à Trois-Rivières. Puis on arrive au BIC, on part de Rimouski... on arrive au BIC.
C'est juste après.
C'est pas loin.
Vous partez.
Non, c'est ça. Mais c'est pas loin. Puis là, il y a des chars de police, les lumières sont allumées, il y a une tempête de neige. Puis essentiellement, on se fait arrêter. Puis ils nous disent, ben, désolé, les boys, la 132 est fermée. Il n'y a pas de chance.
Ouais, mais on a un show.
Et oui, exactement. Puis, fait que, bon, là, on est fermé, on est pris là. Enfin, on se tasse du côté de la route, puis là, on se regarde les 5, 6, puis on se dit, ben, hey, écoute, qu'est-ce qu'on fait, là? Tu sais, comme, est-ce qu'on retourne à la maison, puis qu'on call, parce que, comme, on n'a pas.
C'est toi qui conduisais?
Non. À ce moment-là, je pense que je suis à l'arrière. Mais c'est ça, moi, à ce moment-là, je dois avoir 17 ans. Et on a une vanne, mais il y a juste deux membres qui peuvent la chauffer à cause de l'assurance du band. Fait qu'il y a Pierre-Olivier Canuel et Yannick Simard sont les deux, les deux conducteurs. Mais quand PO chauffe, moi je suis le copilote. Et mais je pense que c'est bon. Je pense que c'est peut-être Yannick qui chauffe à ce moment-là. Et là, pour nous, c'est même pas une option d'abandonner ce projet-là. T'sais, on s'en va jouer à Trois-Rivières, ça va être le fun. T'sais, on a 17 ans. Je pense que même moi, c'était comme j'étudiais en architecture à ce moment-là, puis c'était dans ma semaine de mi-session. Ah, je m'en rappelle. J'ai une semaine de mi-session, puis il faut faire une maquette. Puis là, le monde est en train de se tuer à l'ouvrage. Puis moi, j'ai juste décidé de. T'sais, le monde, ils se disent, OK, ben, je vais avoir une semaine pour la faire, ma maquette, ça va être rushant, mais je vais l'arriver au bout de la semaine, puis ça va être fait. Moi, j'ai juste fait comme, je vais pas dormir pendant 48 heures, puis je vais clencher ça. Fait que le lundi de congé, tous mes confrères et consoeurs sont en train de gosser sur leur avec la colle chaude, puis moi, je suis juste comme, hey, ciao, bye, je m'en vais jouer un show. T'sais, c'est fini. Ouais. Je brûle les raides. Puis là, on arrive là, on fait, ben, on sait sûr que la stratégie, on regarde sa carte, puis on se rend compte que c'est barré, tu sais, de bic, genre à comme trois pistoles, mettons. T'sais. Puis qu'on est comme, si on passe dans les terres, on s'entend, il ferme la 132 parce que la route régionale n'est pas belle. Si on passe dans les rangs, on va se rendre, tu sais. On va être capable d'y aller. Là, c'est clairement PO qui prend le volant parce que, tu sais, c'est un peu dans sa nature de vouloir, parce qu'en plus, lui, il vient de Saint-Fabien, fait qu'il vient du bout qui est barré, tu sais.
Okay. Puis lui, il connaît les détours.
Il connaît le détour. Puis je m'appelle, tu sais, comme, ah oui, on peut passer par le troisième rang. Ça, on va... Fait que là, on coupe dans le village, on monte. Puis là, il y a comme l'espèce de moment où on rentre dans un rang qui est complètement enneigé. Mais tu sais, je veux dire, on voit même pas en avant de nous. Je pense qu'il y a des moments où, quand on voit une pancarte de la route, on le call à PO. T'sais, comme toi qui regardes le signe, la ligne, on sait, c'est comme
la ligne,
90 degrés, ouh, 45. T'sais, on call les l'angle. Puis là, on fait juste se prendre dans la neige. Mais t'sais, c'est fini. Ouais. T'sais, on est plus capable d'avancer. Et là, évidemment, toutes nos mères nous avaient dit comme, bon, il neige dehors, mets tes bottes, mais on est tous en Vans. On a tous des slip-ons. Puis là, on n'a pas de pelle, on n'a rien, on commence à gratter.
À main nue.
Complètement mal adapté pour la job. Et là, on dit, ben, on se résigne, puis on dit, ben, faut qu'on appelle la gratte ou un towing, peu importe. Puis on commence par appeler comme la gratte, comme, hey, allez-vous venir passer? Puis là, on voit comme une gratte qui s'en vient.
Attends, dans le bas du fleuve, tu peux appeler la gratte? C'est quoi cette histoire-là? J'ai jamais entendu parler de ça.
Un 800 gratte.
Gratté dans mon coin.
Quand on prend un remorqueur, puis on avait expliqué la situation. C'est ça. Puis il a dit, ah oh, ouais, je vais vous envoyer une gratte. Puis il va juste comme tasser en neige, je vais aller passer. Puis là, on le voit arriver, t'es au bout du rang, pas de où on arrive, mais comme au bout. Puis là, il fait comme pas vraiment de chemin, puis il se pogne lui aussi, tu sais.
C'est
un bon esprit. Mais là, la gratte se pogne. On va le voir. Puis il fait comme, oh, je vais caler une autre gratte, tu sais, pour nous gratter la neige. Puis là, je vous mens pas. On voit la deuxième gratte arriver et elle se pogne, genre. Puis là, on est comme, OK, mais là,
tout le monde est pogné.
Puis là, mais Guillaume, tu vois ça un peu dans un band. Tout le monde joue un instrument différent. Ouais. Mais aussi, tout le monde joue un rôle différent.
Fait qu'on a des...
T'sais, PO, il est en mode... Faut qu'on sorte le style de vanne de là. Il y en a qui sont en mode le show, parce qu'il y a un show auquel on n'est pas capable d'arriver. Puis on t'entend...
Ça, c'est le chanteur, ça.
Non. J'étais vraiment en mode...
Oui, c'est vrai. C'était toi, le chanteur.
Le crieur, on pourrait dire, mais... Ouais. Fait qu'on est tout un mode de gestion différent. Puis finalement, c'est ça, la deuxième gratte qui est prise, call un towing... qui vient tower la première et la deuxième gratte, puis qui finalement nous pogne et nous tire et nous sort de là. T'sais. Mais finalement, on réussit à arriver à l'autre bout du rang qui nous amène...
Là, c'est toujours l'après-midi?
Oui, c'est toujours l'après-midi. Okay. On avait décidé de partir d'avance vu qu'on était comme tous en semaine de mi-session. Là, on était à Saint-Fabien, puis là, t'sais, on a comme essayé de pelleter dans nos skinny jeans de 2008, mettons. Fait qu'on est mouillé bord en bord.
Pas des Docs, c'est des Vans.
Des Vans, nos slip-on. Fait qu'on se rend chez PO, qui vient de Saint-Fabien, puis là, on met tout notre linge en sécheuse, puis là, on mange une bouchée, puis on est comme...
Là, ils deviennent encore plus skinny.
Là, on était tête.
Vous rentrez plus dans vos skinny. Mais... Le show à Trois-Rivières!
Mais finalement, tu sais, après avoir comme... D'un, c'est ça, c'est quand on s'est fait toer, on a dit comme, hey, tu veux-tu de l'argent? Puis tu sais, tous ces vieux monsieur-là avaient juste pitié de nous. Ils étaient comme, c'est des on a sauvé des incompétents, là, ils seraient morts gelés avec leurs skinny jeans puis leurs Vans. Mais finalement, on est arrivé à temps. Tu sais, finalement, en fin de compte, passé Saint-Fabien, tu sais, la tempête c'était vraiment juste dans le bas du fleuve, Rimouski-Bic. Puis on s'est mis à flyer, puis on est arrivé comme, pile poil à la seconde qu'il fallait qu'on joue, on est monté sur stage. Puis après ça, on est allé festoyer à Shawinigan cette soirée.
C'est plate qu'entre-temps, le foot show était un petit peu poche.
Lequel?
C'est que vous avez fait.
Ah, c'était un bon jour. On a joué au Rock Café.
Au Rock Café.
Rock Café.
Wow. Ben, ça devait être assez satisfaisant.
Rock, hein. le stage rock. On a...
Puis est-ce que vous aviez bien dormi ce soir-là?
Oui.
Ouais.
Oui. Sur un tapis.
Oui.
Sur un
beau tapis. Mais ça revient à cette espèce de logique où rapidement, quand tu viens de ce type de comme Québec lointain, là, comme un Rimouski ou autre, à la fois si tu veux jouer de la musique ou assister à des shows, tu te ramasses toujours dans ces histoires-là.
Ouais.
Parce que dès qu'il y en a un qui a permis de conduire et qui s'agite une Tercel ou une Toyota Corolla, t'es toujours comme, OK, on va aller voir... On va aller Macadam, on va aller à l'Antibar à Québec, on va aller. C'est là que ça se passe. Fait que t'es toujours sa route en train de coter du gaz.
Allez, quand?
Maud.
Ouais, ben oui, j'ai raconté hier une histoire de tempête, mais je pense que sur la route, ce qui m'est arrivé de plus, vulnérabilisant ou insécurisant, tu sais, qui n'est pas une tempête de neige, c'était cet été, j'ai appris. Ben, je suis allée en Abitibi, mais je suis allée dans le canton de l'Est en vélo avec un ami, puis après ça, je suis allée en Abitibi avec un autre ami, puis on était supposé passer par un rang. Puis ce que j'ai appris, c'est que les rangs de l'Abitibi, c'est pas les mêmes que les rangs dans les cantons de l'Est, c'est-à-dire que le chemin proposé par Google Maps, au final, ben, tu sais, on a commencé à le suivre, puis c'est asphalté. Ça va, ensuite c'est la garnotte, ça va encore. Puis là, on s'est rendu compte que ça se détériorait, tu sais, puis que c'est de plus en plus bancal. On s'est retrouvé sur un chemin de chasse. qui était un peu inondé. Ouais, ça commence à être compliqué, mais on vient de faire.
Vous êtes au quel moment de l'année? Est-ce que vous êtes,
On est en été.
En été.
Okay. C'est ça. Fait qu'on n'est pas dans la tempête, mais on est en vélo, tu sais. Fait qu'on est. Tu sais, c'est ça. Traverse le territoire, t'es comme, ah, ben...
Ouais, plus fragile, un peu.
Plus là, fragile, ouais. Tu sais, j'ai comme pas une coquille de métal qui me protège ou peu importe, mais en même temps, on est autonome, là, comme on a de la bouffe, on a de l'eau, genre, y a pas de problème. Mais là, on se dit, OK, on vient de faire 7 km, on veut cette petite section-là qu'on voulait faire, c'est 20 km au total.
Vous partiez de où? Vous les en...
On était dans le coin de Barrotte. On était dans le coin de Barrotte. Un peu passé le village, on avait trouvé un champ...
C'est où ça, Barrotte?
OK, mais on avait monté...
Précise-là, on va faire des bons géographes, là. Donne-nous des indications.
OK, ben mettons...
La latitude, la longitude, s'il vous plaît.
Là, j'aurais dû faire des recherches avant, mais réviser les numéros de route, mais... Mettons, quand tu sors du parc de la Vérendrye, ouais. T'as le chemin vers Val-d'Or, puis t'as le chemin qui monte vers Sainte-Terre. Mm. Puis là, tu... Ben, le Bel-sur-Quévillon. Fait que là, tu suis vers le Bel-sur-Quévillon, puis à un moment donné, tu tournes à gauche.
À gauche.
J'adore ça. Dans des échelles, genre, nationales, quand il y a de la gauche, puis de la droite, tout ouais. Ça.
Oui, c'est ça. Ben, fait que, mettons, tu tournes à gauche, puis là, t'es rendu à Barrotte. Mm. Puis, ben là, on avait dormi là. Puis notre but, c'était d'aller... Ben là, on a dormi à Barrotte, puis on se lève à Barrotte le matin, puis on est comme nous, on veut aller dormir au parc d'Aigbel, dans le fond, qui est juste au nord de Rouen.
Ça, je le connais.
Ça, tu le connais, ouais. Magnifique parc, ouais. Par ailleurs. Puis nous, ben, on passait par Amos. On voulait aller au refuge... comment ça s'appelle? Il y a un refuge là, où est-ce qu'il y a des animaux qui sont recueillis des animaux blessés. En tout cas, ça faisait partie de notre programme de la journée du lendemain, mais qui a été comme une grosse journée, finalement.
Ouais,
fait qu'on se lève à Barotte, juste passé Barotte, on est dans le champ, on se lève, on ramasse, on remballe nos trucs, puis on a le choix de passer par la route nationale ou de passer par le rang. Puis on est comme, hey, on va passer par le rang. Mais le rang...
le rang.
Le rang, finalement, il dure... il durait, en fait, 2 kilomètres, puis après ça, ben c'était plus un rang, c'était un petit chemin, puis là, le petit chemin, il était embourbé, puis on est comme, ah, on passe pareil par là, puis on est comme, ah, ben, tu sais, revenir sur nos pas, c'est pas le fun. Fait qu'on...
C'est tellement angoissant, revenir sur nos pas.
Mais t'as comme l'impression de faire une erreur. Aussi. Ouais, c'est ça. Puis là, t'es comme, oui, mais là, on a fait quasiment la moitié du chemin, fait que là, on a juste cette grande mort de boue-là à traverser. Fait que là, on se met... Ouais, là, c'est l'orgueil, je pense, beaucoup. À ce moment-là, on se dit, on se met du pied, puis on traverse, tu sais, à bras, à côté, dans boîte.
Okay, mais on parle de comment de boue, là, comment d'épais de boue, là, mettons.
Mais mettons, en termes de longueur, c'est comme 10-15 mètres. Puis en termes de profondeur, c'est comme la cheville, mettons. Mais
quand même. Mais votre vélo peut pas avancer, dans le fond.
Mais tu sais, je peux pas rouler dessus. C'est comme je le pousse, là. T'sais, puis j'essaye de minimiser, tu sais, là, j'essaye de marcher un peu sur le côté, sur les roches, les plantes qu'il y a là. Puis là, on pousse, puis on est comme, OK, c'est bon, mais on vient de passer. Notre plus grand obstacle de la journée est sûrement surmonté.
Oh oh.
Puis là, on repart sur nos vélos, puis on est comme, ah! La route, elle rapetisse, elle devient de plus en plus... rocailleuse. Puis là, on est comme, hey, on est dans des camps de chasse, en fait. Puis on trouve ça comme exotique ou on est comme, ah, c'est donc bien intéressant. Puis là,
vous réalisez que vous êtes dans un camp de chasse?
Ben, il y avait, c'était numéroté.
Okay, okay.
Puis j'avais l'impression, ben, tu sais, je connais pas ça tant que ça, la chasse. Là, tu me corrigerais, Émile, là, mais il y avait comme des numéros.
Ouais,
puis
des fanny pack de chasse.
Oui, c'est ça. Deux, trois couteaux.
On préfère un épisode là-dessus. Mais.
Puis là, il y avait comme des petites cabanes qui étaient là, puis je me suis dit, il me semble que si j'étais une chasseuse, je me ferais... En tout cas...
C'est là que je dormirais,
OK. C'est là que je ferais ma cache, là. Je sais pas, en même temps, je sais pas trop, mais c'est numéroté, puis on s'est dit sûrement qu'ils se disent, ça, c'est mon terrain, ça, c'est ton terrain, puis c'est de même que ça se passe. Parce que c'est encore boisé, puis après ça, on dépasse ça, qui est rocailleux, puis on arrive dans du sable. Puis là, on voit des coupes à blanc. Puis là, on est juste dans le chemin de bois, en fait, c'est... Puis là, sur la carte, on voit pas pantoute on voit pas plusieurs chemins, puis là, on est comme, faut-tu aller à gauche, faut aller à droite, puis on sait pas, parce que nous, on suit une seule route.
C'est comme des chemins forestiers, là.
C'est des chemins forestiers, c'est
Mais y avait-tu des gros camions qui passaient au loin?
On est tout seul, là.
Vous avez pas vu personne.
On n'a pas vu personne. On voyait les coupes à blanc, à gauche, à droite, puis au début, pour vrai, on trouve ça intéressant. T'sais, on est comme, c'est intéressant, mais là... Le sable qui est tapé, il vient
c'est
de...
C'est même les géographes, hein, ils vivent mais le trouble, ils ont commencé à être...
La magie du moment.
Puis là, on continue là-dedans, mais le sable, il devient de plus en plus mou. Puis là, on est... Tu sais, là, il faut que tu pédales, mais il faut pas que tu arrêtes, hein, parce que sinon tu cales. Puis là, il faut pas que tu donnes un coup de volant. C'est comme faire du vélo d'hiver. Ouais. T'es comme dans poudreuse, là.
Faut que ça roule.
Dans grosse slush, faut que ça roule. Puis on continue, puis... Puis on avance, puis on est comme... OK, là...
C'est tough, là.
Où est-ce qu'on est, tu sais? Où est-ce qu'on s'en va? On sait même pas si le chemin qu'on suit, on le suit pour vrai. On continue, en tout cas, on lâche pas. Ça nous a pris, pour vrai, ce moment-là, ça nous a pris... je pense qu'on roulait même pas à 10 km/h, tu sais? C'est notre premier 20 km de la journée. On est sortis de là, pas loin de midi, puis on était comme, aïe, aïe, nous autres, on voulait faire 140 km aujourd'hui. C'est mal parti. Là,
mais
c'est...
vous avez dépensé l'énergie de 140 km, mais dans 20 km.
Oui, c'est ça. C'est ça. Puis moi, je m'étais dit, on part, on déjeune pas, on déjeunera à place, au refuge. T'sais. C'est comme dans 20 km, là, c'est vraiment pas loin. Fait qu'on clenche ça, tu sais. Puis là, on était pognés dans les chemins de bois. Puis là, à un moment donné, c'est comme, qu'est-ce qu'on fait ici, tu sais. Puis je dis, OK, on a de l'eau, on a de la bouffe, on est correct, là, mais... On est tout seul. On est
On sait pas trop où ça débouche tout seul.
T'sais. On sait pas, tu sais, combien de kilomètres qu'on a à faire là-dedans. On sait pas, tu sais. Fait que c'est vraiment de juste comme persévérer. Puis t'es comme, ben, OK, ben, j'avance. Puis j'avance pas vite, mais j'avance. Puis d'après moi, la route nationale est à peu près là. Fait que si ça bifurque par là, on va essayer de le prendre par là. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'était comme le moment où je me suis dit... Mais tu sais, en même temps, on avait toute la journée devant nous, tu sais, puis il n'y avait pas le froid de l'hiver là, qui venait nous...
Il n'y avait pas, ouais, c'est, puis il n'y avait pas la fin du jour qui devient une autre épreuve. Quoi que vous étiez autonome sur ce plan-là, parce que vous aviez la possibilité de juste d'ouvrir le camp.
On pouvait ouvrir le camp, tu sais, mais c'est ça, c'est quand même le fait de dire, OK, mais on est peut-être pogné ici, tu sais, on sait pas comme, combien de temps qu'on reste.
Mais là, est-ce que... Comment ça finit? Là, vous êtes pogné dans le spot forestier, mais là... On a
pédalé, puis à un moment donné...
Il est quelle heure, là vous êtes comme...
On s'est même pas rendu... On était comme ça, c'était notre matinée, tu sais, c'était juste de rouler, puis de forcer, puis de pédaler, puis de faire comme... Aïe, c'est rough, tu sais. Puis à un moment donné, on voit un chemin, ça bifurque. On est comme... Ce chemin-là, il est pas sur la carte. Mais on pense que la route nationale est par là, puis on veut pas finir comme suivre le chemin initial suggéré par Google Maps, par ailleurs. Bon, ça fait
Dead
de moi
by
une...
Google.
Ouais, mais c'est ça. C'est ça. Là, ça fait de moi une piètre géographe, là, de comme ça fier aveuglément du chemin suggéré par Google. Mais ouais, puis là, on prend cette bifurcation-là. Là, on a croisé un truck.
Un gros truck
de
vide,
bois, là, puis... Lui, il se demandait qu'est-ce qu'on faisait là.
Oh, ils ont perdu.
Il a pas croyé ce qu'il touriste souvent dans sa traîne, lui, là.
Il est comme ralenti, il nous a fait un signe de main, genre, allô, tu sais, puis nous, on s'est vraiment tassés, puis c'était comme, ça croisait pas, tu sais. Puis là, on était comme, on voulait comme il demandait notre chemin, mais là, il a juste fait comme, allô. Puis il a continué, mais on est comme, bon, ben, OK, ça doit être par là. On va continuer.
OK.
Puis on a retourné sur la route principale, puis là, on s'est dit, OK, on s'en va au refuge. Mon Dieu, c'est dommage que je me rappelle pas de son nom, mais...
Le truc avec les animaux...
Ben oui, on a le refuge Pajot.
Le refuge Pajot. C'est comme Pajot. Les animaux sauvages. Là,
oui, c'est ça,
loups,
ils sont blessés, ces animaux-là. Ils sont recueillis. Puis, en fait, il y a l'aspect réhabilitation, mais aussi l'aspect, ben, quand ces animaux-là peuvent pas être réhabilités, soit ils sont trop blessés, soit ils ont été trop longtemps en contact avec des êtres humains, donc ils ont perdu leur réflexe. Ben là, ils les gardent au refuge. Puis là, on peut comme... voir ces animaux, puis profiter de...
Soit une grosse
de
séance de zoothérapie après
oui,
le stress.
Soit ils ont vécu ça, ou soit ils sont perdus dans un rang bizarre.
Oui, c'est ça.
Ils les ramènent chez Pajot.
Fait que là, on a été au refuge, ils nous ont accueillis. Ils nous ont dit, hey, ben, vous pouvez venir... Non, merci, non. Mais là, on était à 40 km dans notre journée, puis après ça, on était comme, ben, nous, on voulait aller... Il en manquait ça, tu sais, notre destination n'était pas là, fait que... Mais on s'est dit, ah ben, on veut visiter le refuge. On le visite, on prend notre temps, on passe deux, trois heures là. On se dit, ah ben, on faut aller à Amos. On se rend jusqu'à Amos, puis là, on n'a pas tant mangé. Puis on se dit,
la première fois que j'entends ça, il faut aller à Amos.
Mais la route nous amenait par là, tu sais. Puis on dit, on va aller manger
méchant,
à Amos.
Là, il faut que tu ailles à Amos.
Absolument. Tu sais,
if you make it here, you'll make it everywhere, Amos.
Fait que là, on se rend à Amos, il est rendu 4 heures de l'après-midi, on n'a pas tant mangé encore dans notre journée, fait que là, on s'en va manger un burger dans
un
bar. Ben, c'est comme d'un côté, c'est un casse-croûte, de l'autre, c'est un bar. Fait qu'on, là, on se dit, on a besoin de courage, on va se prendre un verre de bière.
J'adore ça, moi, les plans d'affaires mini-weed, c'était comme un côté givré, puis un côté...
Mais c'était exactement ça, tu sais, t'avais l'aspect, ici, on vous sert de la bouffe, puis ici, il y a comme des machines à sous, puis genre, tu commandes un verre, puis dans le fond, tu reçois une pinte, là, puis c'est là qu'on a compris c'était quoi les verres en Abitibi, c'était comme...
C'est des pintes?
Ouais, c'est un gallon de Bud Light.
Ils ont leur propre mesure, c'est intéressant.
Ouais, c'est ça. Fait que là, on boit cette bière-là, puis on mange, puis on est comme, il nous reste 100 km, on le fait-tu, tu sais, puis on est parti finalement il nous restait pas 100 km. C'était une petite journée, celle-là, c'était juste 120 km. Fait qu'on a fait la balance, on est parti à 6 heures, puis on est arrivé avant l'orage à Aiguebelle. Avec le coucher du soleil, genre dans la nuit qui tombe, on a sorti nos frontales, on a monté nos tentes, on était en train de se cuisiner, tu sais, comme on avait faim, là, c'était notre vrai souhait. Puis on arrive,
le
on est comme.
De loin, là.
Ben, c'est ça, puis on arrive, puis on est en train de manger, puis on vient de monter nos tentes. Puis là, il se met à mouiller, mais genre des cordes. Puis on fait juste comme remballer. On est dans la tente, puis on est comme...
Puis c'est sûr que vous avez bien dormi.
Ah, mais c'est clair. Puis, tu sais,
c'est une recette pour bien dormir. Mmh.
Tu sais. Mais tu sais, on riait parce qu'on était comme... Ha, ha, ha. On a réussi cette journée-là. Mmh. Tu sais, à chaque étape, t'es comme... Ah oui, ça, c'est un obstacle que j'avais pas anticipé. Tu sais, ouais. Comme... Tu sais, nous, on était comme... Ah, c'est une petite journée, là. Une petite journée. On a commencé notre journée en se disant... Ouais, aujourd'hui... Ça va être facile. Ouais. Puis on était dans le sable, dans le bois, puis on était comme, ah, c'est pas facile.
Hey, yeah, yeah.
Puis dans tout ça, ta destination finale, c'était quoi? Où tu t'en allais?
Au parc national d'Aigbelle.
OK. Fait que vous étiez rendu finalement, c'était vos dernières journées. Hein?
Ouais, c'est ça. Après ça, on avait juste une journée. On a passé deux jours dans le parc national. On avait, après ça, une journée pour descendre à Rouyn. Puis là, j'avais des amis qui étaient là-bas, qui nous accueillaient, puis on a visité le coin, puis après ça... Moi, je fais de la route pour Val-d'Or, puis pour prendre l'autobus. Mais...
Alors, venez en autobus, mais ils n'ont pas pris les routes des camps forestiers.
Des camps forestiers.
Moi, j'en ai raconté... J'allais au bout des doigts, parce que j'ai raconté hier. Puis j'y reviens souvent quand on a des conditions un peu difficiles. Parce que c'était ça hier. Il neigeait, il y avait de la slush. C'était pas nécessairement facile de voir, puis ça me ramène... souvent, c'est une histoire que j'ai vécue avec mon père. Je suis pas certain des dates, c'est peut-être en 91, 92. Dans ma famille, on était quatre et il y avait, à un certain moment donné, il y avait que mon père et moi qui faisaient du ski. Puis c'était devenu un petit peu notre activité qu'on faisait les deux. Une fois notamment,
moment privilégié,
c'était un peu notre moment privilégié. Un des voyages qu'on avait fait était en train. On avait décidé de partir de Montréal puis d'aller au Mont-Sainte-Anne en train jusqu'à Québec. Puis finalement, je pense qu'on avait pris un taxi jusqu'au Mont-Sainte-Anne, mais mon père avait pris loué une chambre dans un des condos qui sont au pied des chaises. Ce qui faisait en sorte que je devais avoir 10 ans, que dès 6h, 6h30, j'avais envie de partir. Dès que les chaises s'ouvraient, on voyait les moniteurs qui descendaient, qui avaient inspecté les pistes. Puis on partait du chalet, puis on marchait jusqu'aux chaises, puis on montait en haut, puis c'était magique. Là. Pour moi, c'était parfait. Et même, mon père pouvait rester au chalet si moi, dans l'après-midi, je voulais y aller. Puis lui, il commençait à être fatigué parce que c'était 10 heures qu'on skiait. Je pouvais y aller tout seul. En tout cas, c'était superbe, ce voyage-là. Mais il y a une fois, c'est ça, où, disons que c'est en 92... Mon père travaillait à Radio-Canada, puis sur le babillard, il y avait une petite annonce qui indiquait qu'il y avait un chalet qui était disponible à North Attlee, à louer pour une semaine. Alors, mon père loue le chalet, on y va, c'est peut-être pendant la semaine de vacances de l'école.
North Attlee, on est dans l'Estrie.
Oui, dans le canton de l'Est.
Il y a ça... À Saint-Anne, à Québec, il y a une affiche.
Alors, non, c'est ça.
C'est deux
anecdotes différentes. C'est peut-être 2 ans plus tard.
OK.
En vue de la semaine de relâche de l'école, mon père voit cette affiche-là à Radio-Canada.
Ah, OK.
Loue un chalet pendant une semaine, qui loue une maison ancestrale. Et le plan pour nous, c'était de s'installer là pendant une semaine puis d'aller skier partout autour à Jay Peak, à Harford, éventuellement à Stowe aussi. Puis là, c'est le cœur de l'histoire. Et il s'avère finalement que c'était le chalet de Pauline Julien et Gérard Godin. Puis la raison pour laquelle il n'y avait personne là cet hiver-là, c'est que Gérard Godin est en train de mourir. Il avait un cancer à l'époque. Et quelques semaines avant qu'on aille au chalet... On apprend finalement qu'il est décédé. Ça. Moi, j'avais 12 ans. J'avais un petit peu peur la nuit de ça. Bref, on y va quand même. La maison est magnifique, très à l'écart de la route. Et on a skié toute la semaine. Puis une journée, on décide d'aller à Stowe, mais ils annoncent une tempête épouvantable. On se dit, on va y aller quand même. Ça prend 1 heure.
C'est bon pour le ski, c'est une bonne tempête.
C'est bon pour le ski en général. On se rend à Stowe le matin, ça prend 1 heure, c'est facile, il faut traverser les douanes, mais bon, c'était pas très compliqué à l'époque. On y va, puis je me rappelle que vers 1h30, 2h de l'après-midi, il commence vraiment une grosse tempête, il y a presque personne à la montagne. Puis on se dit, OK, on va rentrer, puis on part. Et là, ça a été... J'ai dit que ça a pris une heure le matin, que ça a pris 7 heures revenir au chalet. Puis ça a été une journée incroyable d'émotions fortes. D'abord, rouler sur la route, rien voir. Mm. Moi qui avais la mission de surveiller si je voyais la ligne blanche à droite. Puis on essayait de suivre des vannes à plus ou moins de distance parce que c'est... Les vannes nous servaient de guide un peu pour la route parce qu'on voyait rien. Rien. Puis je me rappelle vers 3-4 heures de l'après-midi, donc peut-être une heure ou deux de route plus tard, on se rend aux douanes. Puis le doyen nous dit, vous savez, on a des espaces ici, si vous voulez dormir pour la nuit parce que la route est épouvantable aujourd'hui. Ouais. En fait, OK, on va y aller pareil. Puis on continue. On se rend près de la maison à North Attlee. On approche, finalement, tout est compliqué. Mais on arrive à se rendre à un détour près de l'entrée du petit chemin d'à peu près 400 mètres qui mène à la maison, qui est au sommet d'une montagne. On arrive dans une courbe. On essaie de monter, descendre. Ça marche pas. Éventuellement, on essaie de monter. On redescend, on se coince dans le banc de neige. Ça devient compliqué. Mon père perd les clés à un moment donné de l'auto. Il y a un autre couple qui arrive, un père qui arrive avec sa fille qui est à peu près mon âge. Eux essaient de monter. Ils n'y arrivent pas. On devient un groupe de 4
survivalistes.
Deux papas, on essaie de trouver des solutions. Ça marche pas, monter la côte, ça marche pas. On sort les cartes, on réussit à
découvrir. Ta mère et ton frère, eux, sont dans la maison.
Non, ils sont pas là.
Ils sont pas là,
c'est
du tout.
C'est juste moi et mon père. Il y a personne. On est juste cette nouvelle famille-là composée de 2 papas et un petit gars puis une petite fille. Moi puis l'autre fille. On fouille, on regarde sur les cartes, on découvre que finalement, il y a peut-être la possibilité de passer par un autre chemin dans la région puis revenir au sommet de la montagne, mais en arrivant de l'autre côté de la route, essentiellement. On part avec eux, on roule 20 minutes, une demi-heure, je sais plus trop. On arrive à une fourche où eux tournent à gauche, nous on tourne à droite, nous on s'en va vers un chalet, on leur dit salut, on essaie de monter la côte, gna, 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 gna. Encore une fois, ça marche pas, on finit par monter cette côte-là, on s'approche du chalet finalement. Mais là on se dit, où est le chalet, puis où est l'entrée du chalet? On est juste en haut de la fameuse petite côte qu'on n'a jamais réussi à monter, on arrive de l'autre côté. Puis à un moment donné, on se rend compte que dans le banc de neige que la souffleuse a poussé dans la journée, il y a un léger affaissement qui nous indique que l'entrée devrait être à peu près là. Mon père, qui est décédé depuis, on s'installe de l'autre côté de la route, on regarde le truc pendant un temps, il y avait une petite Honda à l'époque, hatchback, vraiment un truc qui n'était pas un 4x4 du tout. On est dit, OK, on va foncer dedans. Puis on va
jumper. Va chercher ton casque de ski.
Va chercher ton casque de ski. Puis, OK, parfait, on y va. On y va les deux. On prend notre élan. On part. On fait un saut. On saute. On rentre dans l'entrée. On jump. Boom! On retombe sur le chemin. Et miraculeusement, je ne veux pas dire comme ça, mais le chemin après était... Il y avait beaucoup de neige, puis c'était de la neige forte, puis c'était assez facile de rouler dedans. Moi et mon père, on crie dans l'auto. Là. Ça faisait 7 heures qu'on était là. On hurlait de bonheur. On est rentré au chalet. On a allumé le foyer. Puis il était 9 heures, c'était le début d'une émission à l'époque qui s'appelait « Tous pour un », qu'on avait regardé ensemble à Radio-Canada. Mm-hmm. On s'était couché, repu et... C'est ça. Puis on en a parlé pendant des années après, parce qu'il y a eu plein de moments pendant ces heures-là où on pensait que ça aurait pu mal tourner, en fait. Il y avait la c'est possibilité sûr. De...
Mais comment était ton père dans ces 7 heures-là? C'est-à-dire, est-ce qu'il était dans une anxiété, un silence?
Pas vraiment. On était en super communion, je pense. Mmh. Ça a comme vraiment équipe, créé un lien.
Ouais.
C'est devenu toute une histoire. Puis d'autant que je la raconte, là, c'était plus... Imaginez n'importe quel pensez à un trajet dans votre vie qui vous prend une heure. Imaginez que ça vous prend 7 heures, vous y rendre. C'est quelque chose, C'est assez impressionnant.
Ça souligne les embûches qu'il faut traverser. Mais est-ce que, la question qui tue, c'est est-ce que les histoires de tempête, c'est comme les histoires de pêche, tu sais, que le poisson est toujours plus gros? Est-ce que la tempête était si grande que ça? Non, en
fait, la chose que je peux dire, c'est que hier, je l'ai raconté, puis ça m'a permis de vérifier factuellement des choses qui fonctionnaient toujours. Ce que j'ai fait hier, parce que je sais qu'on était parti vers 2h, puis ce que j'ai vérifié hier, c'était qu'effectivement, l'émission à Radio-Canada, Tous pour un, ça jouait à 9h. Fait que je sais que c'était 7h, c'était pas plus que ça. Puis je trouve que cette histoire-là est moins intéressante si on l'embellit avec d'autres détails. Je trouve que c'était juste un moment entre nous deux.
Ouais.
Au fond, on était on the road, comme dirait Cormac McCarthy, ensemble.
Ou Willie Nelson. Ouais.
Quatre bâtis, une idée originale de Guillaume Métier et Émile Forêt. Réalisation et mise en ligne, Maud Cournoyer. Graphisme, Dominique Quétier. Montage, David Negrete-Caranza. Nous remercions chaleureusement Microclimat, le réseau VRM, Feu Doux ainsi que Bravo Musique.